Merci à tous pour votre patience, hein, parce qu'il est déjà 18h. Donc nous terminons la journée d'études sur la scène punk à Marseille avec une table ronde donc, qui s'appelle Festival, Fanzine, Orga et Salle de concert. Notre panel s'est réduit de moitié, si je ne me trompe pas, puisque Azem n'est pas là et Mathieu Léonard non plus. Donc nous avons à ma droite Olivier Crapoulet et Stéphane Raffi juste à côté. Alors on va peut-être commencer par une question générique, donc qui s'adresserait à vous deux, donc celle de l'entrée dans le punk. Comment, voilà, d'où vous venez, comment ça se passe?
Alors moi, je viens d'une banlieue à Paris Sud-Est, donc à côté de Grigny, qui est plus exactement Évry-Courcouronnes. Donc j'ai grandi, c'était un quartier un peu pourri, et j'ai rencontré une espèce de bande de skin punk sur un parking qui m'a filé des cassettes. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le punk. Assez rapidement, j'ai monté mon premier fanzine qui parlait de football, puis un fanzine de musique qui s'appelait Rude Boy, donc ça j'étais encore au lycée. Dans la foulée, j'ai monté mon propre label, donc c'était il y a à peu près 22 ans, si je ne me trompe pas. Et donc toujours Rude Boy, jusqu'à terminer aujourd'hui par Crapoulet Records, qui a sorti plus de 250 disques et cassettes d'un peu partout dans le monde. J'ai plus de fanzine aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme et j'ai pas trop le temps. Et voilà.
Stéphane, donc moi je suis originaire de Saint-André dans le quartier Nord, donc pour répondre à la question sociologique, fils d'ouvrier, de secrétaire, et actuellement je suis au SMIC et en CDD, quoi, donc c'est pour répondre aussi à quel est le public punk, une partie du public. Moi je découvre le punk, alors j'ai découvert avant tout le hip-hop en 88-89, donc on n'était pas beaucoup du tout à Marseille, et j'étais au lycée Nord, et à l'époque, les punks se foutaient bien de notre gueule, de notre dégaine et de notre musique. N'était pas une parce qu'il n'y avait pas de guitare. Et en fait, je découvre le punk presque par hasard avec la bande de Lollipop Rattaquant, donc Pascal, Stéphane Lollipop, Olivier Gazol. Parce que on est au même lycée, je me retrouve à un concert et je trouve ça vraiment pas mal ce qu'ils font. Et on commence à me filer des disques des Stooges & Co. Et j'ai la chance d'être à côté du MJC Mirabeau, qui était tenu par Marilyn de Kiesel Thrill, où je commence à me prendre dans la gueule le punk et la noise, et qui sont deux styles où moi, personnellement, je suis pas très disque, je suis plutôt live, et je me prends cette énergie-là, et ça me convertit à cette scène-là. Après, en tant qu'acteur, moi je suis avant tout spectateur, je me fais deux concerts minimum par semaine en général pour bouffer de ce truc-là. Il y a mon âge avancé de 46 ans, je commence à en avoir fait pas mal. J'ai commencé par la chronique de concert sur Concert & Co Live in Marseille, et après je suis passé dans un truc un peu plus activiste avec Fossé à Rock, qui était créé par Vince en 2012 parce qu'il voyait arriver 2013, et il disait on n'y est pas, il faut cracher à la face du monde qu'il y a une scène underground. Et je rejoins après le Vortex quand Sam, le créateur du Vortex, dit j'en ai marre, j'arrête, soit il y a des volontaires pour reprendre, soit il n'y a plus de Vortex.
Alors merci. Donc on peut peut-être repartir sur 2013, parce qu'on a vu dans la communication de Rémi donc que c'était un peu un opérateur à partir duquel il y a quand même un dynamisme, en fait un nouveau souffle. Donc il va y avoir des initiatives qui se créent contre. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représentait pour toi MP 2013 à ce moment-là?
Ouais, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de, contrairement à peut-être ce qui a dit ce matin, qu'il n'y a pas d'âge d'or, hein. Pour la plupart des gens, l'âge d'or c'est 15 ans, 25 ans. Pour moi, l'âge d'or c'est ici et maintenant, et c'est ce sera sûrement demain, parce qu'il y a quand même une part fantasmée de ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de concerts qu'à Marseille, et j'ai eu autant d'organisation, et enfin ce qui était dit par rapport à la comparaison avec la scène de l'Est, que la scène ici serait plus agressive. Non, je pense que la génération avant la mienne et la mienne était un peu bas de plafond, et qu'il y avait vachement d'animosité, de rancœur personnelle. Je trouve qu'actuellement la scène et les acteurs sont vachement plus intelligents et arrivent à plus bosser ensemble, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des initiatives comme la rue du rock et comme le Vortex qui peuvent exister. Sur 2013, c'était pas grand chose en fait. Ça nous est passé un peu au-dessus comme le reste. En fait, c'était la volonté d'affirmer, et c'est ce qu'on fait chaque année avec la rue du rock. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la rue du rock, c'est tous les mois de septembre, le dernier dimanche de septembre, on coupe la rue Consola et on organise une vingtaine de concerts dans l'après-midi avec deux dogmes. C'est le premier truc, c'est que des groupes locaux, donc du département, et le deuxième truc, c'est un groupe qui a joué à la rue du Rock ne joue pas une deuxième fois. Le but, c'est de faire voir l'effervescence de la scène locale. Et donc, on avait la 7e édition cette année, donc ça veut dire qu'on a programmé plus de 140 groupes locaux, ce qui veut dire qu'on a quand même un vivier quand même riche. Alors, c'est pas un festival punk, esthétiquement d'abord, parce qu'on part du folk ou hardcore, en passant par les musiques. Cette année, on avait un groupe de Nawa. Donc, c'est vraiment le rock au sens large. Pour certains punks, ce n'est pas un événement punk, parce que depuis quelques années, on a gratté des subventions. Moi, ça me dérange absolument pas, parce que c'est, étant aussi militant syndical, l'argent public, c'est le pognon que nous, on produit et qui doit être réaffecté à l'intérêt général. Donc, ça nous permet, nous, de payer les ingé-sons et de payer le matos et de faire bouffer les groupes qui jouent tous bénévoles, et les membres de l'asso sont tous bénévoles. Donc, et on a l'autorisation de la mairie, contrairement à Pierre Alpens. On a fait une seule édition de la rue du Rock sans autorisation, et ça a été failli partir... dégénérer, pas à cause de, forcément des flics, mais surtout à cause des voisins, des bagnoles qui voulaient absolument passer dans la rue. Donc depuis, vu qu'il y a un public assez familial, on demande l'autorisation à la mairie. Et bon, pour le niveau sub, on a 5000 balles qui me permettent de couvrir l'événement, avec le seul truc nous qu'on impose, c'est on se charge complètement de l'esprit et de la programmation, on refuse toute ingérence là-dedans. D'ailleurs, cette année, pour être clair aussi, ça fait plusieurs années où on a des stands militants. Cette année, c'était le Squat Saint-Just, le Mamba, le collectif 5 novembre. Donc, on affirme aussi clairement, il y a Soit Méditerranée, clairement une orientation là-dessus. Donc, voilà, c'était le discours qu'on a avec la rue du Rock, c'est un événement de l'année, une fois par an. La scène sort des caves et se met dans la lumière, et après on retourne dans les caves, et surtout il faut aller dans les caves. C'est-à-dire que la rue du Rock n'existe que parce qu'il y a énormément d'assauts, des lieux et des gens qui se bougent toute l'année. Il y a un réseau de, moi j'ai pas de définition du punk, la seule définition c'est que c'est collectif et que ça n'existe que parce qu'il y a plein de gens qui se bougent, qui ont pas spécialement envie d'être en lumière, hein, c'est pas du tout l'esprit, mais sans ces activistes, il y aurait rien. Donc une fois par an, on sort, on montre tout le monde, et surtout on encourage à venir dans les salles. C'est ce qu'on fait aussi, qui est complémentaire avec le Vortex.
Merci. Alors si on repasse un petit peu à ce que fait Olivier, donc toi tu as un concept, c'est le « do it ourselves ». Est-ce que tu peux nous en parler, et puis par rapport au rapport de tension que ça peut induire aussi au do-it-yourself ou...
Aujourd'hui, sortir un disque à un seul label, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, c'est même quelque chose, si j'en avais les moyens, qui ne m'intéresserait pas, parce que j'aime bien travailler avec d'autres gens, d'autres influences, et pouvoir construire des choses ensemble. C'est aussi le principe qu'on a avec La Sale Gueule, où tout le monde est à peu près au même niveau. C'est ce qu'il entendait tout à l'heure, Will, par le fait que ça soit horizontal, c'est que tout le monde a un pouvoir de décision et doit pouvoir agir. Et donc moi, c'est comme ça que je conçois le punk ou l'énergie du punk, c'est de pouvoir travailler ensemble en se respectant chacun les uns les autres, tout en ayant aussi des valeurs communes qui sont pas forcément compliquées, hein, c'est quelque chose de la tolérance ou le rejet de l'ostracisme. Mais voilà, c'est le do it together ou do it yourself, c'est voilà, on le fait ensemble. Pour en profiter ensemble aussi.
Et comment du coup ces valeurs dont tu parles sont décisives ou pas dans la gestion de la nuit ou d'un lieu de concert, comment ça s'applique ou
pas? C'est simple, c'est que si on n'a pas envie, on fait pas.
Mais par rapport, je veux dire, à des politiques de porte, de coups, de sexisme, tout ça, comment ça se...
Les valeurs communes sont finalement assez classiques. On est quand même, on n'est pas des ayatollahs, on a beaucoup d'influences différentes, on va dire, dans les 6 personnes qui animons principalement La Sale Gueule aujourd'hui. On est très ouvert, mais on a quand même des bases communes, c'est-à-dire effectivement le respect de l'autre et le rejet de l'homophobie, du racisme, des choses comme ça. Donc c'est très naturel à vivre avec, en fait. C'est, y compris si quelqu'un n'a pas les moyens de rentrer, on le laisse pas dehors, c'est pas le principe, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'a pas de subvention parce qu'on considère qu'on n'en a pas besoin, on arrive à se débrouiller sans. Si on en avait besoin, je sais pas comment on ferait, mais on s'est pas posé la question en fait. On en a juste pas besoin, on fonctionne comme on en a envie et on se donne les moyens de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et après, il y a un renouvellement du langage aussi, parce que le sous-titre ou le slogan du label, c'est le label des mecs cool, c'est ça. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que ça, comment tu l'entends
Alors le mec cool, c'est une référence à Eddie Murphy. Voilà, c'est tout. C'est juste qu'on, tout le monde doit, enfin, on est cool avec les autres et on, enfin, j'ai pas sorti de groupe de cons, je pense pas. Ou alors c'est un des sorties de l'esprit. J'ai un logo qui est très spécifique, ce qui fait que les grands rois du hardcore, les vrais punks, les machins, viennent pas chez moi. Parce que ça fait pas bien, à mon avis, dans leur dossier de presse ou pro, ou je sais pas. Et j'ai une sélection aussi qui est très hétéroclite et internationale, donc c'est quelque chose aussi qui place pas forcément les professionnels du punk. En tout cas, à se dire, tiens, je vais sortir mon disque chez Crapoulet ou autre, c'est vraiment pas, je pense pas qu'ils s'attachent à mes valeurs.
Et par rapport donc au catalogue, quelle est la place ou la part des groupes marseillais dans ce que tu sors comme disque ?
C'est les groupes marseillais qui me plaisent, je vais les sortir. Ceux qui me plaisent pas, je les sors pas. J'ai pas de quota.
Oui.
Voilà, j'ai pas de quota. J'ai sorti le premier groupe marseillais que j'ai sorti, je pense, c'était les Wire Kids en 2002. Il y a eu les Head Pings, il y a Keith Richards Overdose. Là bientôt, il va y avoir Joy Blaster. J'ai sorti Arostan, Canine, enfin énormément de groupes marseillais, mais pas que, et pour moi c'est même pas une part de quota ou de je suis un label marseillais ou quoi, puisque là-bas je suis parisien en plus. Non, c'est naturel, le groupe me plaît, je propose de participer. C'est pas, y a pas de volonté de faire un label marseillais ou en partie marseillaise.
Si on passe donc Stéphane à la deuxième partie un peu de ton parcours, donc c'est le Vortex qu'on a vu dans le documentaire d'Alexandra, donc tu donnais quelques pistes aussi, et puis il me semble qu'il y a une sorte de manifeste un peu, enfin là, qui explique une notice, je sais pas comment.
Bon, alors ce qui aussi c'est venir, c'est le côté transversal. Olivier a fait partie du Vortex, il y collabore aussi fréquemment, la plupart des copains de la Sale Gueule y sont aussi, enfin c'est vraiment une aventure collective cette histoire là. C'était créé par Samy qui s'est exilé en Saint-Etienne. Et le but, c'est de
diffuser. Il est à Lyon, c'est pire. Il est à Lyon.
Ah, pardon, j'essaie de le prolétariser un peu, ça. Et du coup, c'est avoir notre propre média et diffuser les concerts dans des lieux et faire venir du monde dans les concerts. Alors, ouais, c'est vrai que. Moi, je suis parti des gens qui ont milité pour qu'il y ait un peu plus d'autres choses que du punk, parce que c'était un peu orienté très très punk, hardcore au départ. Moi, j'estime qu'un concert de Gnawa ou un concert de hip-hop a tout à fait sa place. Et donc, ce qu'il y a dans le Vortex, c'est pas plus de 10 balles. Ça, c'est le dogme. Et c'est le deuxième truc, c'est effectivement, on met aussi de. Si on met pas un truc, on n'a pas forcément à se justifier parce qu'on le fait nous-mêmes. Hein. On va mettre les manifs. Sur le logement, on va tomber. Il y a certains concerts qu'on va pas mettre parce qu'on trouve que les lieux qu'organise sont très limites dans leur esprit. Voilà, le but c'est vraiment de faire venir du monde, de faire voir que cette scène est quand même une solidarité, même s'il y a des bisbilles parfois entre les personnes ou entre les équipes. C'est quand même loin d'être le cas, comme je disais, aux générations précédentes où ça pouvait complètement paralyser. Pour revenir aussi sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, on a parlé de sectaire. Sectaire, c'est quelqu'un qui du garage qui ne veut pas écouter la noise, quelqu'un qui écoute la noise qui ne veut pas écouter de l'arco-punk. Sectaire, c'est pas quand tu refuses quelqu'un qui est raciste, homophobe, ça c'est la politique. Parce que je n'étais pas sûr de comment ça a été utilisé, parce que certaines personnes ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait des politiques sectaires dans certaines salles. Non, c'est des prises de position clairement politiques. Et moi, je sais que une des rares embrouilles que j'ai vécues à la machine à coule, c'est quand je sortis quelqu'un qui tendait le bras et qui me disait que lui, c'était un vrai punk, il était dans la provocation. Ben, je suis désolé, dans ce cas-là, je ne suis pas punk. Et je te sors, par contre. Tu vois, c'est ce qu'on a sorti collectivement, cette personne-là. Donc, ouais, c'est pas du sectarisme, enfin, c'est la prise de position politique, il faut être clair là-dessus. Ce qu'on fait
l'intelligence, hein, simplement. Même. Enfin... Pour revenir vite fait au Vortex, l'idée aussi au début, c'était de tordre le cou aux idées qu'à Marseille, il se passait rien. Donc on a regroupé toutes les dates dans un papier et on s'est aperçu au fil des éditions qu'il y avait de plus en plus de dates. L'autre chose, c'était aussi de montrer que toutes les salles travaillaient ensemble. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de machin, pas de chapelle. Toutes les dates de toutes les salles sont sur le même papier. Et je pense que c'était aussi un signal fort de pouvoir dire on bosse ensemble. Voilà, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de clivage.
Et dans la question bosser ensemble, le financement, on sert le Votex en moyenne à 1500 exemplaires par mois, et il est différencié par les salles essentiellement qui filent entre 0 et 20 balles selon les revenus qu'elles ont eus, par quelques concerts de soutien et par des caisses qui sont déposées sur les comptoirs. Donc voilà, c'est le, pour exemple, parce que c'est aussi dans, on a vu aujourd'hui certaines personnes qui ont contracté la douloureuse maladie du C'était mieux avant. Il suffit de sortir en Vortex. En novembre, par exemple, il y avait 137 événements pour le mois de novembre dans Vortex. Ce mois-ci, je crois qu'il y en a plus de 110, parce que janvier, c'est moins le cas. Donc, il y a aussi dans les gens atteints de C'était mieux avant, ils te disent ouais, mais là, c'est que des petits U à l'époque. Nous, on remplissait la fac, on faisait 700 personnes. La rue du Rock, c'est 3500 personnes. Donc, voilà, il y a une amnésie aussi qui est sûrement due. Allier une certaine idéalisme de sa jeunesse, mais tu parlais de transmission. Moi, je parlais d'une scène que je connais qui m'a amené au punk, c'est la scène garage. La scène garage qui est moins politisée que les autres, même si à Marseille, elle était essentiellement portée par des gens des quartiers nord, via la sourd attaquant et le label Lollipop. Il n'y avait pas de discours politique. Simplement, il y a toujours eu des groupes de jeunes en première partie, des groupes locaux qui n'étaient pas toujours très au point, mais qui ont fait leurs premières armes et qui ont ensuite pu eux-mêmes créer leurs concerts, monter leur assaut, organiser des concerts, qui maintenant sont beaucoup moins jeunes qu'à l'époque et qui même maintenant eux-mêmes continuent à mettre des groupes de jeunes en première partie qui ensuite vont monter leur assaut, etc. L'exemple, c'est Poggy et les Kéfers qui jouent ce soir. Ils ont 22 ans de moyenne d'âge, ils ont une assaut qui s'appelle Sueur Jaune, ils n'arrêtent pas d'organiser des concerts, et ces gens-là ont découvert le garage via les vieux attaquants, cette vieille scène garage. Et même sur la même chose, effectivement, il n'y avait pas une politique de prix libre, mais on a fait, je me souviens bien, dans les concerts attaquants, les gens qui rentraient, qui disaient qu'ils n'avaient pas de thunes, ils rentraient quand même à la machine à coudre, même si après elles sont devenues universitaires, qu'elles peuvent payer leur place de concert. Mais à l'époque, je me souviens de pas mal de jeunes punks qui avaient l'habitude de ne pas payer au concert garage à Marseille.
Et moi, j'étais là il y a 25 ans, et je tiens à dire que c'était quand même assez nul à chier. Donc voilà, je pense que c'était pas mieux avant, personnellement.
Est-ce que tu peux un petit peu plus nous parler de la programmation des groupes à la Sale Gueule ?
À la Sale Gueule, en fait, pour programmer, il suffit de nous contacter. Si le concert nous intéresse, s'il y a du monde de dispo, et si on a encore un créneau de libre, parce qu'on peut faire que 6 concerts par mois, il n'y a pas de raison qu'on ne l'organise pas. À partir de là, on demande juste le respect de certaines choses, du genre, si la personne n'a pas 5 euros, laisser rentrer. Effectivement, des valeurs politiques qui sont assez basiques, et des valeurs de respect en termes d'accueil du groupe aussi. Voilà, on n'accueille pas le groupe en préparant pas à bouffer, en leur n'étant pas à boire, par exemple, des choses très basiques comme ça. Sinon, c'est une organisation assez simple. Donc les gens organisent, nous on prend pas d'argent sur leurs entrées. Donc normalement toutes les entrées vont au groupe, et le loyer est payé avec le loyer de la Sale Gueule est payé avec le bar. Donc je pense qu'on peut pas faire mieux. L'idée qu'on a toujours eue, c'était de pouvoir aider des gens à se lancer dans des organisations, soit de concerts, soit il y a des gens qui ont passé leur premier disque en tant que DJ à la salle, il y a des gens qui ont pu lancer un ciné-club à la Sale Gueule, qui ont pu continuer leur comédie-club. C'est de pouvoir amener en fait un outil qui permette à des gens d'interagir et de pouvoir participer en fait à la vie, à leur vie sociale et associative, grâce à nous et via nous. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais l'idée, c'est vraiment de permettre à un maximum de gens de pouvoir participer, quoi.
Et on a vu dans le film d'Alexandra les soirées karaoké aussi. Tu peux nous en dire un mot ?
Alors avant, le karaoké, ils n'avaient pas leur propre lieu, donc ils tournaient entre les salles, que ce soit la machine à coudre, l'asile 404 ou la Sale Gueule. Donc c'était des soirées où ils venaient faire du karaoké.
Alors karaoké punk, hein,
enfin au début, ça chante du punk, mais rapidement, c'est Joe Dassin. Donc on va pas se mentir non plus. L'idée, c'était, voilà, ils avaient besoin d'un lieu, et c'était de pouvoir les accueillir sans se dire, karaoké, c'est nul, je sais pas, toi. Mais aujourd'hui, ils ont leur propre lieu, je pense qu'ils ont aussi besoin de soutien, donc n'hésitez pas à y aller, c'est ouvert tous les samedis soirs. Donc voilà, c'est des concepts simples, mais si les gens ont envie de le faire, on essaye de pouvoir les aider à le faire.
Et peut-être, oui, il y a une question de Rémi.
Petite question pratique. Les 6 concerts par mois, c'est toujours la négociation avec les voisins ?
C'est exactement ça, ouais, c'est les voisins, parce qu'ils sont pas obligés d'avoir du thrash metal dans leur salon, donc on est assez gentil avec eux. Et en semaine, les concerts terminent tôt aussi, parce qu'on a une pensée d'une part pour les voisins, mais aussi pour ceux qui travaillent. Ça leur permet de voir un concert sans forcément se flinguer la journée du lendemain.
Une question pour Stéphane, et peut-être qu'après, voilà, je vous laisserai peut-être voilà, revenir sur des points que je n'ai pas abordés. Ou, voilà. Tu te décris comme un cégétiste punk, c'est ça, sur un réseau social, et je sais voilà, que c'est quelque chose qui t'occupe beaucoup, donc est-ce que tu peux nous en parler voilà, par rapport
à c'est simplement, je pense que c'est lié aussi à Marseille, à la sociologie marseillaise, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ville de prolos, donc forcément il y a plus de prolos qui écoutent qui sont syndiqués, qui écoutent du punk. Moi, j'avais sorti pour la blague des badges CGT punk et que je filais qu'à des gens qui étaient syndiqués. J'en ai retiré quand même plus de 200, donc ça veut dire certaines choses. Voilà, après, c'est. Ouais, je pense qu'effectivement, la démarche syndicale et la démarche des Do It Yourself, il y a quand même pas mal de points communs sur le mode d'organisation, sur les questions, les valeurs, etc. Après, malheureusement, les playlists des camions sonos CGT à Marseille ne sont pas très punk. On essaye de prendre le pouvoir, mais on n'y arrive pas.
Ouais, pour revenir vite fait sur le do it yourself, par contre, je vais mettre un peu la clim. C'est pas un truc punk. Il y a les punks qui l'utilisent beaucoup, qui le valorisent beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment partout. Il faut juste savoir le voir, le petit club de football de province, avec l'entraîneur qui va laver lui-même ses maillots, c'est du do it yourself. Moi je connaissais une dame qui en avait marre de voir comment des cochons d'Inde étaient recueillis et mis à la SPA, et donc qui a monté son propre refuge dans son salon. C'est du do it yourself, enfin c'est quelque chose. Je pense qu'il faut arrêter de dire punk, do it yourself, et de se dire c'est l'apanage des punks. C'est faux, effectivement on l'utilise beaucoup, on le valorise beaucoup, mais c'est vraiment pas que les punks.
Oui, c'est pour ça que tu revendiques un autre terme aussi.
Non, mais même le do-it-yourself, enfin, c'est quelque chose, c'est juste une façon de s'organiser, à savoir que beaucoup de gens dans le punk aujourd'hui sont do-it-yourself parce que personne ne veut le faire pour eux. Donc ils sont aussi un peu obligés de le faire eux-mêmes parce que bah, ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est juste ça qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'on n'a pas l'apanage du do-it-yourself ou do-it-ourselves, do-it-together ou tout ça.
On a peut-être si vous avez, il y a des points, évidemment, il y a plein de points qu'on n'a pas abordés et qu'on pourrait, est-ce qu'on a fait le tour? On passe aux questions.
C'est une question sur le Vortex. J'ai cru comprendre qu'il avait fait des petits, c'est-à-dire qu'il était présent dans d'autres endroits. Est-ce que vous savez où? Et est-ce que ça n'a que la fonction d'agenda dans les autres versions? Ou est-ce qu'il y a aussi, comme dans la version du Vortex marseillais, un édito qui raconte un peu un point de vue sur la ville et ce qui s'y passe?
Alors ouais, moi j'ai des éléments de réponse. À Paris, ça existait sous le nom de Pollution Capitale, c'était un fanzine. Ils sont rapidement engueulés quant à la direction éditoriale, et je crois que c'est terminé. Par contre, il y a un truc qui s'appelle Paris Kiwi là-bas, qui est une sorte de wiki, donc sur Internet, où chacun peut rajouter ses propres dates. Ça, c'est quelque chose d'assez cool et d'assez établi. Je sais qu'à Bruxelles, à Lyon, à Clermont, il y a des choses comme ça qui existent. Alors à Clermont, ça doit aller vite, j'imagine. Mais il y a des choses comme ça qui existent ailleurs et basées un peu sur le même principe. On parlait des bistrots aussi tout à l'heure. C'est un concept qui a été repris dans d'autres villes, des fois avec le même nom, ce qui est cool. C'est bien de pouvoir influencer d'autres villes. Alors je sais pas si on est l'influence principale ou on est plus une confirmation, mais pour une ville qui n'est pas censée être rock, je trouve ça assez cool que des concepts comme ça soient pris basés sur nos expériences et nos initiatives.
L'image du label, c'est quoi la symbolique? Crapouler, accepter.
Alors, il n'y en a absolument aucune. Moi, je viens du punk hardcore, et la plupart des gens dans le punk hardcore mettent des têtes de mort, des paysages nucléaires, enfin thermonucléaires, je sais pas, des barbelés, des trucs morts, je sais pas. Et en fait, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis quelqu'un d'assez. Qui cherche à faire des choses bien, de façon assez optimiste. Je vais plutôt vers la lumière, en fait, que vers le charnier ou je sais pas. Donc voilà, moi j'ai voulu faire une coupure nette en mettant un cochon d'Inde. Faut savoir que c'est des cercles concentriques parce que je sais pas faire une spirale sur l'ordinateur. Voilà, c'est aussi con que ça, il n'y a pas vraiment de grand concept ou de machin. Et Crapoulet, c'est le nom d'un journaliste dont on s'est moqué un jour au Parc des Princes à un match. Voilà. Il n'y a pas vraiment de concept ou quoi. C'est juste une rupture par rapport à. J'aurais pu l'appeler Death tout truc en mettant une tête de mort et des barbelés. C'est pas mon état d'esprit. Voilà, tout simplement.
La bibliothèque va bientôt fermer ses portes. Donc voilà, je tiens à vous remercier tous pour cette communication.